Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, chers amis auditeurs des arènes de l'écologie, comme chaque semaine, elle aura tenu une semaine de plus, cette sacrée humanité. Et malgré tous les efforts de certains, je dirais que l'optimisme n'est pas perdu.
François, okay. C'est prophétique.
Oui, voilà, c'est ça. On fait des prophéties toutes les semaines. On annonce que l'humanité va encore durer une semaine, au moins, malgré les efforts de Trump et consorts. Mais donc ce soir, c'est notre dernier cycle, notre dernier épisode du cycle La Voix de la Biodiversité. Ce soir, on reçoit Tatiana Giraud, donc, qui est notre écologue, notre spécialiste de la biodiversité, qui va nous communiquer le récit de biodiversité du moment. Alors, je vous laisserai découvrir. Mais elle va le faire en face de deux invités qui, eux, par contre, ne sont pas forcément du tout des spécialistes de la biodiversité.
Hein ? Non, Blanche. Pas vraiment. Moi, je suis autrice bande dessinée et activiste féministe et climat.
Voilà, et ton nom ?
Blanche, ça va, pardon.
Voilà. Et tu viens d'éditer aussi, mais on en reparlera en fin d'émission, une BD. Alexis, qui va prendre le micro. Voilà, vas-y.
Et on dirait, oui, je l'ai pris.
tu te présentes un petit peu.
Bonsoir à tous, Alexis Bessin, je suis auteur-réalisateur. J'ai fait notamment deux séries en rapport avec ces sujets-là. Une série qui s'appelle Déter, sur des lycéens dans un lycée agricole, et une série qui s'appelle Parlement.
Oui, qu'on a peut-être plus eu l'occasion de voir, puisqu'elle a quand même fait quelques années, quelques saisons.
Écoutez, oui, à peu près. On s'en plaint pas. Maintenant, on attaque la suite.
D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Bon, avant de présenter plus largement Tatiana tout à l'heure, on va lancer nos chroniques habituelles, à commencer par celle de Théo, qui te vole la politesse. Mais,
non, il n'y a aucun problème.
Ce qui te permet généralement de mettre le point final à ta chronique, mais...
Oui, ça permet de réviser.
Ça permet de réviser. Bon, vas-y Renaud, envoie-nous la capsule de Théo.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine. Et ce soir, on va parler de nos rivières et de nos fleuves, parce qu'on le sait, une des principales conséquences des bouleversements climatiques actuels, ce sont des épisodes météorologiques beaucoup plus irréguliers et beaucoup plus intenses. Les sécheresses sont plus longues, les orages plus forts, les épisodes de pluie plus courts mais plus intenses. Et en ce qui concerne ces derniers, ils ont un impact très concret sur notre quotidien, une augmentation en fréquence comme en intensité des crues et des inondations. D'ailleurs, plusieurs territoires en France ont déjà fait les frais de ces épisodes, à l'image du Pas-de-Calais en 2023, le Var ou l'Hérault en 2024, ou plus récemment les Pays de la Loire et la Bretagne cet hiver. Alors face à ces risques croissants, que faire ? Eh bien, elle est là, la bonne nouvelle. Là encore, pas besoin d'une recette miracle ou d'une technologie futuriste. La nature a déjà ses propres remèdes, il suffit de l'aider un peu en renaturalisant nos fleuves et nos rivières. Si pendant des décennies, l'homme s'est borné à construire, à bétonner, à endiguer, à essayer de maîtriser ses cours d'eau, de nombreux projets fleurissent aujourd'hui un peu partout en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde, visant à redonner de l'espace à ces cours d'eau. Très concrètement, on va par exemple supprimer les lignes droites pour redonner aux cours d'eau leur méandre naturel, ça va notamment permettre de ralentir la vitesse du fleuve et d'éviter les crues éclairs. On va restaurer des zones humides aux abords des cours d'eau pour créer des zones éponges, ce qui permet d'absorber une partie du surplus d'eau en cas d'épisode pluvieux. On va restaurer et revégétaliser les berges pour les protéger de l'érosion. Et puisqu'on est sur un cycle dédié à la biodiversité, j'ajouterai que ces travaux comportent aussi souvent un volet dédié à la renaturation des couloirs écologiques, c'est-à-dire des portions où les espèces, et notamment les poissons, peuvent circuler librement, sans écluse, sans barrage. Ça permet notamment une meilleure mixité génétique au niveau des populations. Et pour en revenir à ces travaux de renaturation des fleuves, ils ont des résultats très concrets. Par exemple, lors des épisodes pluvieux de cet hiver, le département de l'Aude, qui est régulièrement concerné, a été beaucoup moins touché durant les crues de cet hiver que les années précédentes. Et les autorités locales s'accordent à dire que c'est essentiellement grâce aux travaux de renaturation effectués sur les deux dernières années. Au lieu d'accélérer dans un canal bétonné, l'eau peut ainsi se déverser sur les côté et s'écouler dans des zones humides prévues à cet effet. Et une fois encore, des projets similaires, je le répète, on en compte des dizaines de milliers à travers le monde. Ça prouve une fois de plus que dans de très nombreux cas, la nature a déjà son lot de solutions à nos problèmes. Il suffit de lui redonner de l'espace et de l'importance. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Oui, bah donc effectivement, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que ça date pas d'hier. Et d'ailleurs, c'est vrai que bon, ça prend quelquefois des dizaines d'années pour mettre en chantier ces travaux de génie écologique et d'expansion des crues. Mais bon, je me souviens qu'on en parlait très très fort en 1995 avec Michel Barnier quand il était ministre de l'Environnement et pas Premier ministre. Mais donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais en tout cas, c'est très bien que tu t'en saisisses et puis que bah, tu t'en fasses un chantre de la renaturation. Mais je crois que la bataille n'est pas tout à fait gagnée. Alors Ben, est-ce que tu as des bonnes nouvelles aussi à nous donner ou c'est le contraire ?
Il y a effectivement des batailles à gagner.
Voilà.
Ça, je pense que c'est décisif. Et notamment un 29 avril.
Oui, tu vas nous avoir trouvé une date. Ah
ouais. Ce sont des dates clés qu'il faut pouvoir retenir. Il y en a une, par exemple, que j'ai notée. C'est la limite des 100 km à l'heure, toi qui aimes les voitures, et qui a été accomplie par la Jamais Contente.
Oui, et alors ?
La fameuse Jamais Contente.
Électrique.
Et ça, c'est cette voiture électrique en 1899, elle a franchi effectivement cette limite de 100 km à l'heure.
Bon, super. Le 29 avril. Donc toi, tu commémores ça tous les ans.
Absolument.
Non, mais t'as raison.
Et le 29 avril, c'est aussi, en 1961, c'est la création du WWF.
Ah.
World Wildlife Fund.
D'accord.
Qu'on appelle en français le fond...
On dit le panda.
On dit le panda. Non, c'est le fond mondial
de la nature.
Ah, voilà. Vous voyez, il y a comme ça quelques dates clés. Et alors, il y en a une sur laquelle je vais m'apesantir un tout petit peu. C'est celle qui, malheureusement, elle a été célébrée hier et pas aujourd'hui. J'ai un petit décalage. C'est la journée mondiale des travailleurs et des victimes du travail.
Ah, et c'est pas le 1er mai, ça.
Non, c'est le 28 avril. J'espère que tu suis.
Oui.
Et ça, c'est dû... Les informations que je vais vous donner maintenant...
C'est des
scoops. Elles relatent... Oui, elles émanent d'un rapport de l'OIT.
D'accord.
L'Organisation Internationale du Travail, qui n'a plus, d'ailleurs, de bureau à Paris. Sinon, j'aurais pu vous le faire visiter. Mais...
Et non.
Et... retenez bien ce chiffre, un travailleur sur quatre considère qu'il est victime d'une maladie mentale. Bon. C'est la santé mentale qui est au fond la plus éteinte. C'est le baromètre Quali Social qui en reparle. Mais de se déclarer en mauvaise santé mentale... Une personne sur quatre, je trouve que ça fait beaucoup.
Et
j'avais envie de vous en parler, parce que c'est quand même quelque chose qu'on... Bon.
Mais il y a aussi des troubles musculaires squelettiques, il y a tout un paquet de maladies ou de conséquences du travail sur la santé.
Alors oui, mais d'ailleurs ça s'appelle les RPS.
Ça, c'est un acronyme qu'on découvre, cher ami.
Psychosociaux responsables. Et responsables de quoi ? De 880 000 décès dans le monde, selon le rapport de l'OIT. Donc ça, c'est...
Tu m'as fait peur.
Je ne sais pas si vous êtes en mauvaise santé mentale.
On ne travaille pas, nous.
Vous ne travaillez pas, donc... donc vous ne figurez pas dans ces belles statistiques. Mais j'ai trouvé que c'était... Ah, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, toujours sur le 29 avril. C'est que c'est la journée mondiale qui célèbre l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur les armes chimiques.
Ah.
Alors il y a quand même cette convention qui a été signée par presque tout le monde. Il y a quand même quelques tricheurs.
Ah, vas-y, explique.
Il faut quand même que je vous parle de ces quelques États qui ont réussi à ne jamais ratifier cette fameuse convention.
Dont ?
Je vous les donne en mille. Vous croyez que c'est la Corée du Nord. Je sais.
C'est le quiz.
Non.
Le quiz de la journée.
Il n'y a pas que la Corée du Nord. Il y a aussi l'Égypte.
Ah.
Et le Soudan du Sud.
Bon.
Voilà, donc si jamais vous avez des connexions diplomatiques avec ces gens-là, vous pouvez toujours leur dire que c'est jamais trop tard de bien faire. Et sur ce...
Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre de plus surprenant que ces gens du Nil.
Que
que ces gens du Nil.
Ah, ces gens du Nil, oui. Non, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Non. Essayez de voir quels sont les grands événements et vous apercevez que souvent on oublie les décès qui sont dus à du dérapage au niveau de la santé mentale. Donc la prochaine fois, je vous parlerai des travailleurs très particuliers que sont les soldats.
D'accord.
Et le nombre de suicides dans les armées.
Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Tu sais ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine.
Voilà,
non, mais ça c'est génial. Bon, alors moi je voulais vous faire mon petit bilan sur les nouvelles de Roquelaure, du ministère de l'Environnement, mais donc, l'environnement, excusez-moi, je date un peu de la transition écologique et puis tutti quanti. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que madame Barbu boude. En tout cas, l'agenda n'a pas été actualisé, donc on n'a que l'agenda de la semaine dernière, donc me voilà encore en chômage technique. Mais je me disais que ce serait un bon moyen d'accorder plus de temps à la présentation de nos invités. Ben voilà, donc on va commencer par un petit tour. Alors maintenant,
un handicap est un atout.
Voilà, c'est ça.
Bravo, François. Donc
effectivement, on va commencer par Tatiana Giraud, qui est aujourd'hui la conteuse du moment. Donc, après la marquise d'Aligre, on va voir la comtesse de la biodiversité, donc Tatiana Giraud. Alors, donc, écologue, chercheuse en évolution, écologie biodiversité, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des champignons. Alors, je ne dévoile pas tout, hein, parce que ça va être aussi... Ben m'a interdit de spoiler les choses. Il paraît que je ne sais pas tenir ma langue. Bon, en tout cas, Tatiana Giraud est chercheuse dans les laboratoires du CNRS à Gif-sur-Yvette, c'est ça, sur le plateau ou dans la vallée ?
On était dans la vallée et on est monté sur le plateau.
D'accord, bon. Et ça, je connais un petit peu le quartier. Et puis, vous avez été aussi invité à enseigner au Collège de France. Ça doit être un peu impressionnant.
Non, c'est très agréable en fait, parce que les gens viennent parce qu'ils ont envie.
Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de notes, voilà, pour le coup, il n'y a pas de copie.
Il n'y a rien d'obligatoire.
C'est pour ça que j'y vais.
Ah voilà. Alors, en plus, effectivement, le Collège de France, on ne va pas dire que c'est des voisins, mais presque, ils sont guère plus loin que le muséum qui est en face de nous. Là. Donc effectivement, le Collège de France, c'est vous reprenez la rue Monge et puis...
Peut-être qu'elle a une anecdote sur le Collège de France, non
Pas spécialement, non, mais c'est vraiment été très agréable. C'est, oui, des gens passionnés, passionnants, qui viennent écouter pour le plaisir. Ça a été un des meilleurs cours d'enseignement que j'ai jamais donné.
D'accord. Bon, bah écoutez...
Ça fait partie de votre cursus ? Même pas. C'est en plus.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller donner des cours aussi jeunes ? Parce qu'effectivement, d'habitude, si vous regardez sur le site... Les profs au Collège de France, s'ils sont pas ils pourraient être dans les arènes de l'écologie, quoi. Ils ont largement passé la date de paix.
En fait, on est élus et invités. Ça, c'était sur une chaire annuelle. Donc, ce n'est pas des chaires permanentes. Et donc, c'est une chaire où ça tourne. C'est un professeur différent tous les ans. Et c'est les professeurs permanents du Collège de France qui choisissent l'invité tous les ans, qui l'élisent.
Voilà.
C'est un processus très démocratique au fond, puisque
c'est... Oui, voilà, c'est désigné d'office, quoi. Bon, alors Blanche, alors parle-nous un petit peu de ta dernière BD avant t'as 2 minutes avant qu'on lance la musique et après qu'on rentrera dans le vif du sujet avec le conte de la biodiversité.
Ok, alors moi j'ai une autre petite anecdote sur le 29 avril. Alors déjà, c'est mon anniversaire.
Ah, voilà, ça ne se rate pas, quoi.
Aujourd'hui.
Bravo.
Votre anniversaire.
Eh oui.
Aussi.
Et c'est aussi la première fois que les femmes ont voté en France. C'était le 29 avril 1945.
Ah.
J'aime bien cette date.
Ah bah oui.
Qui est féministe.
Comment a pu plus rater cette date?
Mais du coup, ça fait une bonne transition avec ma bande dessinée, puisque c'est une bande dessinée qui s'appelle La Cité des Dames, et qui se passe dans un univers médiéval fantastique. Je reprends les codes de l'heroic fantasy, mais je les utilise pour parler de lutte sociale, notamment de lutte féministe. Et donc, du coup, c'est fidèle à mes combats de base d'activiste climat et féministe, mais transposé dans un univers de fiction où c'est sympa à lire, quoi.
D'accord.
En théorie.
Donc, on va voir si on peut injecter de la biodiversité dans ce genre de récit. Alex, si tu veux rajouter quelque chose.
Parce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on peut faire en BD sur la biodiversité.
Eh bien, on va laisser Tatiana faire son récit et puis on reviendra vers Blanche. Et là, on va se passer la petite... Enfin, c'est pas la pause musicale puisque c'est l'introduction du conte de la biodiversité.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bien, Tatiana. Oh, c'est pas la peine de mettre le micro, mais c'est à vous.
Merci.
Je vous lis. Je vais mettre le casque, excusez-moi.
Oui, alors ?
Je vous lis mon texte. Oui. Donc, c'est le royaume secret du fromage. Dans un petit village accroché aux pentes des Alpes, vivait une enfant nommée Jade. Elle aimait les merveilles discrètes que seuls les curieux remarquent. Les nuages qui passaient entre les montagnes, la neige qui tombait sans bruit, et surtout, les caves sombres où dormaient les fromages. Son grand-père, Étienne, était fromager. Sa cave sentait la pierre froide, le lait chaud et un parfum étrange, un peu piquant, un peu fruité. « Tu sens ça ?» demandait-il. Jade hochait la tête. « Ce sont les moisissures qui travaillent. »« Les moisissures ? » demanda-t-elle un jour. « Oui, » dit son grand-père en souriant, « les champignons du fromage. » Il coupa une meule. À l'intérieur, les veines bleues dessinaient des rivières. « Ce sont elles qui transforment le lait. »« Mais comment ?» Elle mange le fromage et en le mangeant, elle le transforme. Elle casse les protéines, les graisses, elle fabrique les arômes de noisettes, de beurre, de sous-bois. Elles font la magie du fromage. Jade trouva cela merveilleux. Un monde entier vivait dans ces fromages et travaillait à le rendre délicieux. Un monde entier vivait dans ces fromages, un monde de bactéries, de levures et de moisissures qui transformaient lentement le lait pour créer les arômes et la texture du fromage. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle était devenue minuscule, plus petite qu'un grain de sel. Et elle marchait dans une grotte blanche. Les murs étaient faits de fromage. Et partout autour d'elle vivaient des moisissures bleues. Elles ressemblaient à des minuscules arbres de cristal. L'une d'entre elles s'approcha. « Bienvenue, » dit-elle. « Mais qui es-tu ? » demanda Jade. « Nous sommes les Penicillium Roqueforti. Nous sommes les artisans du bleu. » Et les moisissures l'emmenèrent dans leur royaume. Elles lui montrèrent comment elle creusait les galeries du fromage, comment elle libère les parfums, comment elle transforme un simple lait en un monde de saveurs. « Nous travaillons avec les humains depuis très longtemps, » expliqua une vieille moisissure. « Depuis quand ? » ?»« Depuis des milliers d'années. Les humains nous ont domestiqués. »« Comme les chiens ?» demanda Jade. « Oui, exactement. » La vieille moisissure continua. « Au début, nos ancêtres vivaient dans la nature. Ils poussaient sur du bois mort, des plantes en train de pourrir, des aliments oubliés. Ils se nourrissaient surtout de fibres végétales, de cellulose, de restes de plantes. Et puis les humains ont découvert quelque chose de très précieux. Quand du lait est transformé en fromage grâce aux microbes et aux champignons, il pouvait se conserver bien plus longtemps. Le lait frais se gâte vite, mais une fois transformé en fromage, il peut nourrir les humains pendant des semaines, pendant des mois. Et certains d'entre nous rendaient même ces fromages délicieux. Alors les humains ont commencé à nous choisir. Vous choisir ? Oui, ils prenaient les fromages où nous faisions les meilleurs arômes, et ils utilisaient nos spores pour ensemencer les fromages suivants, génération après génération. Et ça vous a changé ? Ah oui, beaucoup, la moisissure fit apparaître autour d'elle des images de leurs ancêtres. Nous avons évolué avec les humains. Certaines lignées ont appris à pousser beaucoup plus vite dans le fromage. D'autres ont appris à utiliser les sucres du lait, le lactose au lieu des sucres de plantes. Et nous avons aussi développé des enzymes capables de transformer les graisses et les protéines du lait en parfums incroyables. C'est pour ça que le fromage sent si bon ? Oui, sans nous, le fromage serait simplement du lait solidifié, comme du fromage blanc. Jade regarda les moisissures bleues autour d'elle. Donc, les humains vous ont aidé à évoluer. Oui, mais la vieille moisissure baissa la tête. Parfois, ils nous ont trop sélectionnés. Plus loin dans la grotte, les moisissures devenaient rares. Elles semblaient faibles. Que se passe-t-il ? Demanda Jade. Les humains ont voulu des fromages toujours identiques, toujours la même couleur, toujours la même texture, toujours le même goût. Et ils voulaient aussi les fabriquer de plus en plus vite. Les moisissures qui poussent rapidement, qui couvrent le fromage en quelques jours, qui donnent toujours le même goût, le même résultat. Alors ils ont choisi une seule lignée, encore et encore, et la diversité a disparu. La vieille moisissure expliqua doucement. Quand une espèce possède beaucoup de diversité, elle peut s'adapter aux maladies, aux changements, aux accidents. Mais quand tous les individus sont identiques, ils deviennent fragiles. Certains de nos cousins ont perdu quelque chose d'essentiel. Lesquels ? Demanda Jade. Penicillium camemberti, la moisissure du camembert. Que leur est-il arrivé ? Les humains utilisent toujours la même lignée issue d'un unique mutant blanc pour que le fromage n'ait pas l'air moisi, encore et encore, toujours le même. Avec le temps, cette lignée a perdu sa fertilité et produit de moins en moins de spores. Et sans reproduction, sans nouvelles variations, la moisissure soupira. L'espèce finit par s'épuiser. Jade sentit un frisson. Alors les fromages pourraient disparaître ? La moisissure resta silencieuse. Peut-être. Mais ses yeux brillèrent soudain. Pourtant, il y a de l'espoir. Elle conduit Jade un peu plus loin. Dans une autre grotte, là, les moisissures étaient différentes, plus nombreuses, plus variées. Certaines bleues nuit, d'autres turquoises, d'autres presque vertes. Et elles flottaient dans l'air comme une constellation. « Qui sont-elles ? » demanda Jade. « Elles viennent d'un endroit spécial. Hein. Où ? Dans un fromage rare fabriqué dans les montagnes. Un fromage où les humains ne nous ajoutent pas. Nous arrivons toutes seules. « Quel fromage ? » demanda Jade. « Le bleu de Termignon. » Dans ce fromage, expliqua la moisissure, les spores viennent de la cave, de l'eau, de l'air, des montagnes. Les moisissures s'y rencontrent, s'y reproduisent, elles mélangent leurs gènes. Là, nous avons encore de la diversité. Et cela peut nous sauver ? Oui. Cette population possède des capacités intermédiaires entre des moisissures des fromages et celles de la nature. Elle peut ramener des nouveaux gènes, une nouvelle vie. Jade regarda les moisissures danser. Alors les fromages peuvent être sauvés. Oui, mais il faudrait que les humains comprennent quelque chose. Quoi ? La vieille moisissure répondit doucement. Quand on domestique le vivant, on doit aussi le protéger dans toute sa diversité. Sinon, la domestication devient une impasse. Au matin, Jade se réveilla dans la cave de son grand-père. Le soleil passait par une petite fenêtre. « Tu as bien demandé, dormi ?» demanda Étienne. « Papy, oui, c'est vrai que les moisissures peuvent disparaître ?» Il la regarda avec surprise. « Oui, certaines sont en danger, mais il y a le fromage de Termignon. » Son grand-père sourit. « Ah, tu connais cette histoire ? Là-bas, les moisissures arrivent toutes seules. »« Exactement, elles sont différentes. » Elles pourraient sauver les autres ? Étienne hocha la tête. Peut-être. Parce qu'elles ont gardé quelque chose de précieux. Quoi ? La diversité. Jade regarda les fromages dans la cave. Elle imagina les royaumes invisibles qu'ils abritaient, les millions de champignons minuscules, les artisans patients, les créateurs de saveurs. Elle pensa que le monde était plein de merveilles invisibles et que parfois, sauver la diversité d'un petit champignon pourrait aussi sauver la beauté d'un fromage. La joie d'un repas, une part entière de la culture humaine. Et dans le silence parfumé de la cave, les moisissures continuaient leur œuvre, transformant le lait en magie, comme elles le faisaient depuis des millénaires, en attendant que les humains se souviennent que la diversité est la vraie recette de la vie.
Ah, bon, on applaudirait si on était dans une salle, mais on va le faire quand même. Alors, comme ça, le fromage de Termignon est le sauveur des fromages. À quoi il ressemble ce fromage de Termignon ?
Ben, c'est un fromage assez dur et effectivement, les moisissures bleues viennent de l'extérieur, colonisent le fromage de l'extérieur. Et souvent, quand vous l'achetez, d'ailleurs, il n'est même pas bleu. Il faut attendre un peu que les moisissures colonisent dans votre frigidaire.
Alors, il vient d'où ce fromage ? Du pays du fromage comme de la Mayenne, comme Alexis ?
Dans les Alpes, il n'y a plus que 4 petites fermes qui le produisent.
4 fermes qui produisent ce fromage rare. Mais, oui, Ben.
Moi, je voudrais savoir comment on fait le lien, comment se raccrochent les wagons entre le moment où vous décidez de faire de votre science pour devenir écologue, et puis comment vous passez par les fromages pour aller ensuite vous asseoir sur les beaux fauteuils du Collège de France. J'aimerais voir le cheminement.
Bah, donc, j'ai une formation d'ingénieur agronome et ça m'a passionnée depuis cette école et après mon master et ma thèse, la biologie évolutive. En fait, comprendre l'évolution des espèces pour comprendre pourquoi le vivant est comme il est. Et pour ça, pour comprendre l'évolution, en fait, depuis Charles Darwin, on utilise les organismes domestiqués comme des modèles d'évolution, parce que c'est vraiment la sélection artificielle, c'est le parallèle pour la sélection naturelle, et c'est d'ailleurs un des moyens qu'a utilisé Charles Darwin pour vulgariser son concept, et pour même comprendre le concept de sélection naturelle. Et donc c'est pareil, pour comprendre l'évolution des organismes en général, donc on étudie les plantes domestiquées, le maïs, et donc je me suis dit, ça serait une bonne idée d'étudier les moisissures domestiquées pour faire du fromage.
Donc ça court moins vite que les pinsons. Mais Blanche, est-ce que ça t'inspire ? Alors, on n'est pas dans le Moyen-Âge, mais il y avait quand même des choses un peu mystérieuses.
Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout le contraste entre uniformité et diversité. Et le fait que si on est extrêmement... on se conforme à un seul modèle qu'on réplique à l'infini. Je pense par exemple à comment sont gérées les forêts. On peut faire un parallèle de si on a des champs d'une seule espèce d'arbre, en fait, c'est pas ça qui crée une forêt, c'est pas ça qui crée de la résilience, c'est pas ça qui crée des écosystèmes... riche et résilient et fonctionnel. Et moi, c'est quelque chose en quel je crois fermement, aussi appliqué à la lutte sociale. Je pense qu'il faut plein de manières différentes de faire, qu'elles se nourrissent les unes des autres et que... Il n'y a pas qu'un seul système qui fonctionne et qu'une seule méthode. Et donc, du coup, ça fait peut-être un peu tirer par les cheveux par rapport à ce que tu viens de nous lire. Mais je m'y retrouve aussi un petit peu dans l'histoire que j'ai essayé de raconter dans ma BD. Parce que le principe, c'est que j'ai plusieurs personnages principaux. Pas qu'une seule personne, du coup. Et qu'ils vivent tous dans une société qui ressemble au vrai Moyen-Âge, mais qui est quand même fictionnée. Et qui est donc très restrictive, très oppressive à plein d'endroits. Et qu'ils ont tous à cœur de la modifier. Mais comme ils se situent à des espaces différents de l'échiquier social et politique, ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur quelle lutte il faut prioriser et quelles sont les manières de lutter. Et le message que j'aimerais qu'on retire de ça, qui se retrouve dans plein de leçons que m'ont apprises l'écologie, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire et que nos manières de résister et de penser ou en tout cas rêver et essayer de faire fonctionner une société différente ont énormément besoin de non-conformité de la pensée et de diversité dans nos pratiques, en fait, tout simplement.
Et effectivement, c'est ça, on peut imaginer que c'est ça qui fonctionne. Hein. J'ai vu récemment un argumentaire autour de justement quelles sont les luttes qui fonctionnent, et en prenant l'exemple de la lutte contre le sida, où c'était une période où les gens se disaient qu'ils n'avaient absolument pas le temps d'attendre et qu'il fallait tout essayer en même temps et rien brider. Et en fait, ça a été hyper efficace, hyper rapidement, en fait, d'essayer plein de choses et de ne pas dire non, on discute d'abord qu'est-ce qui est le plus efficace, on essaye ça seulement. Et une variété de luttes a été très efficace.
Alors Alexis, est-ce que toi qui viens aussi d'un pays de fromage...
Alors moi je viens pas du pays du fromage, on fait pas assez de fromage en Mayenne, désolé, mais on fait de la rillette plutôt. Moi j'avais pas trop compris la consigne, j'ai plutôt essayé de me poser des questions d'adaptation sur le texte qui m'était lu.
Oui.
Voilà.
Et donc, la diversité, t'inquiète.
Voilà, et donc c'est vrai que... on a un souci, nous, en cinéma et en série, c'est qu'on ne sent pas. Il n'y a pas encore de choses pour avoir les odeurs. Et c'est vrai que l'arène qui nous était proposée ici était quand même très intéressante au niveau des odeurs. Mais sinon, j'ai essayé de me dire comment je rendrais concrètement le message que vous essayez de faire passer dans le texte. Et c'est vrai que moi, je l'aurais pris par l'affiliation, c'est-à-dire par la transmission quand même d'un patrimoine dans cette relation entre le grand-père et sa petite-fille. C'est pas un hasard si vous avez beaucoup à l'écran et au cinéma ces histoires-là, c'est parce que c'est comme ça en général qu'on arrive à parler de l'écologie aussi de façon très concrète, parce que quand on se situe comme vous dans une arène aussi précise pour en raconter l'histoire, voilà, on a besoin des gens et on a besoin des familles, et en général c'est ça qui marche bien.
Et quand on a du générationnel, on a aussi la transmission.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, évidemment, on a la limite de l'imagination qui est quand on rentre dans le monde des moisissures, où là, je me suis dit, bon, là, je serais un peu pris de court si moi, je devais filmer ça quand même.
Ah, mais si tu voyais, tu pourrais filmer le microscope, c'est absolument...
C'est magnifique.
Il y a une vie. Gorgones, c'est magnifique.
Je crois que le message qui est là-dedans, c'est qu'il y a quand même une vie. Et en effet, on se demande si... bon, alors l'animation le ferait mieux que nous. Hein, en animation, les gens le feraient mieux que nous. Mais c'est vrai qu'on pourrait filmer des choses en accéléré. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ça suscite l'imagination des gens et qu'on voit qu'en effet, il y a des micro-organismes, il y a des choses qui bougent là-dedans et que des fois, le vivant est là où on ne le soupçonne pas, quoi.
Mais... alors effectivement, j'avais pas pensé que tu allais nous piéger comme ça en disant au cinéma il n'y a pas d'odeur. Mais c'est vrai que moi ce qui m'avait plu aussi, c'est que on parle là pour le coup de ce qu'on peut appeler la biodiversité invisible, qui est souvent la grande oubliée de la biodiversité. Et là, ça en est une illustration concrète, mais invisible, mais pas coupée du sens, puisque l'odorat et le goût sont tout à fait représentés dans cette question de fromage.
Il y a aussi la couleur qui joue beaucoup, hein, justement. Ouais. On a sélectionné pour faire le camembert un mutant blanc parce qu'il n'était pas gris et qu'il ne faisait pas moisissure.
Il ne faisait pas époisse, quoi.
Voilà. Et donc, quand on peut regarder sur les fromages de chèvre, par exemple, une diversité de couleurs de moisissure, alors que bah, sur le camembert, il est toujours blanc.
Donc c'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit du pays de camembert, quoi.
Non, c'est vraiment un chercheur qui a isolé un albinos parce qu'il faisait moins moisi.
D'accord, d'où le succès du camembert.
Et moisi est considéré comme très péjoratif.
Oui.
Bah, sauf sur le fromage. C'est vrai qu'il n'y a que là où on tolère le moisi.
Que les Français tolèrent le moisi, pas tout le monde.
Pas oui, tout le monde. Vas-y, dis-nous tout.
Non, par contre, moi, c'est vrai que je me suis dit qu'on pouvait raconter la même histoire sur la microbiologie des sols, en fait, sur la santé des sols. Voilà, à quel point on a pu tuer la santé des sols, évidemment, en les épuisant, j'invente rien. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire une série sur un conseiller agricole qui est ingénieur agronome, qui a une formation d'ingénieur agronome, et qui a beaucoup de mal, même auprès de certains agriculteurs, à faire comprendre comment la vie s'organise dans les sols. C'est un des enjeux aussi, et que je pense que les futurs créateurs, les prochaines générations de créateurs se poseront. C'est-à-dire qu'en fait, là on parle des moisissures pour le fromage, mais dans les sols il y a aussi plein de choses dégoûtantes avec lesquels il faut se familiariser, et c'est pour ça que voilà, je pense que cette histoire-là aura pu être racontée aussi très bien. La parabole aurait été très bonne avec la santé des sols aussi.
Oui, tout à fait. Il y a tout un monde de micro-organismes dans les sols absolument essentiels à leur fertilité et qui, là, pour le coup, ne disparaissent pas par la domestication trop forte, mais par tous les pesticides qu'on répand.
Justement, c'est aussi un élément qui me frappe dans cette biodiversité de l'invisible, c'est qu'il y a autant de... Comment dire de, il y a autant de d'éléments du vivant, donc de bactéries ou de virus ou d'autres dans une bouchée de pain que d'étoiles dans le ciel. On s'en rend pas compte, mais les chiffres de la microbiologie sont astronomiques, quoi. Comme au sens 10 puissance 19 ou 23.
Oui, dans une cuillère de sol, il y a plus d'organismes que d'humains sur Terre, quoi.
Donc moi, en tout cas, ça m'avait frappé quand j'avais découvert ça en faisant des articles sur des choses très, très triviales, qui étaient l'ensilage de maïs. Comment conserver l'ensilage de maïs
On y revient toujours à l'ensilage de maïs.
Voilà,
c'est vraiment
c'est une obsession.
Alors, justement, il y a les cousins, les Pinicium roqueforti, sont dans l'ensilage de maïs.
D'accord. Alors... Bon, ceci étant, ce n'est pas moi qui racontais le conte, mais il y a une des choses qui m'avait frappé dans cette histoire d'ensilage de maïs, c'est que les micro-organismes étaient capables de faire de la transformation, non seulement pour changer le goût, mais pour transformer du végétal, je ne sais plus trop quoi, en, en je crois que c'est du glycogène ou un nom bizarre comme ça, donc j'aurais dû réviser mes notes, mais grosso modo
oui, il fermente, c'est-à-dire que vraiment, oui. C'est pour ça qu'on l'utilise pour faire du pain, du vin, et c'est pour ça qu'ils sont les éboueurs de la nature, c'est-à-dire que sans champignons par exemple on peut pas recycler du bois.
C'est mieux
que
les éboueurs, c'est carrément des recycleurs, des transformateurs,
c'est ça
qu'on n'imagine pas, c'est que de ce point de vue là les micro-organismes, cette biodiversité invisible est capable de remplacer de la chimie, mais dans plein d'usages. Mais bon, on n'en est qu'au début de ça. Alors, il y a des voisins de Tatiana qui s'appellent Ferment du Futur. C'est une espèce de start-up, méga start-up à la française qui travaille sur ce sujet. Mais l'objectif, c'est effectivement de remplacer de la chimie. Et tu en parlais.
Comment tu dis Ferment de...
Ferment du Futur.
C'est joli comme concept. Très joli.
Mais bon, on les invitera une prochaine fois. Mais en tout cas, effectivement, il y a non seulement de quoi rêver, mais y compris... de se projeter dans l'avenir en termes de technologie.
Allegre FM 93.1.
Ben, tu voulais dire quelque chose? Hein?
Même pas.
Même pas. Bon, alors. Et Blanche, alors? Ça.
Je pensais que tu passerais à la musique.
Ah non, on sait pas encore la musique. T'inquiète.
Non, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de passer par la fiction pour parler de choses hyper scientifiques, en fait, et parler de réel. Et c'est un truc que permet la fantasy, c'est un truc que permet la littérature, en fait, de faire parler des moisissures, ou de passer par l'onirique aussi, en fait. Ça lui arrive en rêve, c'est pas juste elle qui s'imagine des choses. Moi, j'aime bien le rêve, je trouve que c'est très fécond pour raconter des histoires, où, en fait, on passe par un espèce de monde... monde mystérieux, qu'on comprend pas très bien, où on a des messages qui nous arrivent, on sait pas trop d'où, on sait pas trop si c'est notre inconscient qui nous parle ou si c'est des forces différentes, mais en tout cas, on arrive à faire passer des messages comme ça. Et par exemple, dans la fantasy, c'est difficile de parler d'écologie, je trouve, parce que très souvent, quand on se situe dans une histoire, même fictionnelle, très très lointaine, il n'y a pas trop de problèmes d'écologie. En général, comme la technologie est très reculée, et ben, en théorie, la biodiversité, ça va. Les écosystèmes, ça va plutôt bien. L'humain n'a pas encore, en tout cas dans cette timeline, commencé à tout saccager. Mais donc, du coup, on prend des voies détournées pour arriver à en parler quand même. C'est-à-dire que j'ai vu des œuvres de fantasy, notamment en jeux vidéo, qui font que leur ressource naturelle, c'est la magie, par exemple, et que si on en abuse, si on l'utilise pas avec parcimonie, eh bien, on dérègle notre écosystème et on dérègle le pouvoir magique et que, du coup, ça peut commencer à devenir dangereux ou, au contraire, à s'assécher comme des puits, en fait, comme des ressources. Et je trouve ça malin, en fait, de passer par cette espèce de métaphore qui est très facile à comprendre pour un lectorat sans forcément aller dans le discours direct, frontalement écologiste, mais qui accomplit, en fait, exactement le même message, enfin, le même but.
Oui, mais c'était bien l'objet de ces rencontres entre scientifiques et artistes, c'est de trouver des voies de passage qui soient pas parce que bon, ça fait des années que le monde des rationnels, on va dire, entre les scientifiques, les journalistes scientifiques ou environnementaux comme nous, essayons de, entre guillemets, d'éduquer les gens à ces sujets-là, puis on a l'impression qu'on piétine, quoi.
Mais c'est bien d'utiliser la fiction.
C'est le but du jeu.
C'est ça.
Dans ce qu'on se disait l'autre fois avec Philippe Grandcola, c'est qu'on piétine un peu. Et il nous avait trouvé une très belle formule, je ne sais pas si tu t'en souviens, Ben, non? Bon, il nous avait dit la science donne raison, l'art donne envie.
Ah, nice.
Je trouve que c'est un très bon résumé, quoi.
Complètement. Moi, j'avais vu une co-rédactrice du GIEC, je me rappelle plus de son nom, mais elle avait dit à un moment donné, là, on a justement, il y en a beaucoup, en plus du GIEC de quelle année, mais et elle avait dit en fait là, les scientifiques ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Là, maintenant, on a besoin des artistes, on a besoin que vous passiez par le registre des émotions, parce que alerter avec des chiffres, on le fait et c'est absolument essentiel, mais c'est pas forcément suffisant, voilà.
Ah, puis on voit certains effectivement présidents de certaines républiques qui s'en fichent totalement, quoi.
Oui, non, voilà. Mais oui, voilà. Alors que si on peut-être on passe par un langage différent, on passe par la métaphore, on passe par la fiction, on passe par la fantaisie, le but va être atteint quand même, mais peut-être sans le vocabulaire forcément proprement scientifique, mais le message sera passé.
Alors Alexis.
Oui, non, juste sur la question de par quoi on passe, je pense que ce qui est intéressant, bon, outre tout ce qui a été mentionné, mais c'est qu'on a parlé des moisissures. Il y a quand même quelque chose en ce moment, moi, que je remarque, c'est quand même un décentrement des points de vue par lesquels les histoires sont racontées. Là, l'histoire n'est pas racontée du point de vue des moisissures, mais en tout cas, on a de plus en plus d'histoires qui prennent le point de vue, de, alors ça peut paraître bizarre, mais d'éléments naturels, de l'eau, de... Voilà, donc on a de plus en plus ça, je pense que ça va être, encore une fois, je pense que ça va être dans très important dans les années à venir. Vous avez même, alors on n'est pas encore dans l'écologie, mais vous avez Vice Versa par Disney où c'est des émotions, les émotions deviennent des personnages. Voilà, je pense qu'un jour on aura un Vice Versa français avec des moisissures qui sont des personnages dans des fromages. Hein, je veux dire, tout ça, ça contribue à décentrer le regard aussi, et on en aura besoin, je pense, à mon humble avis.
Bah, y a une BD récente qui est sortie sur les fromages et sur les champignons du fromage, entre autres, et qui personnifie les moisissures, voilà. Exactement comme ça. Mais ce que tu disais, c'est intéressant. Je trouve qu'effectivement, on a l'impression qu'on a donné les fêtes et que ça ne change pas beaucoup, et qu'il faut un récit, et un récit qui donne envie. En fait, c'est ça qui manque.
Oui, et puis... Alors peut-être qu'on peut passer aussi par le plateau de fromage, mais est-ce que faire peur fonctionne encore? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les fromages, c'est certes nos fromages du terroir, dont le lien avec le fromage de Termignon, je crois que je vais courir après, il faut que je le retrouve absolument. Mais l'autre risque, c'est de nous dire que tous ces fromages industriels, ultra-pasteurisés et sélectionnés, peuvent aboutir à une espèce de disparition du fromage. Mmh. Est-ce que la vache qui rit est un fromage?
C'est une
très grande question
philosophique.
Si tu vas en Inde, oui. C'est considéré comme le rêve pour la plupart des Indiens.
Alors bon, l'Inde est quand même le plus grand producteur laitier de la Terre, mais tout le monde l'ignore. Parce que c'est pas le plus grand commerçant de lait. Mais donc, le point de vue indien est pas forcément inintéressant, mais ils ont pas autre chose que de la vache qui rit quand même en Inde.
Ils ont. Mais pour eux, c'est. Je sais pas, ça représente énormément de. Ah ouais. Ça a toutes sortes de qualités étonnantes. Voilà.
Et qu'en pense l'ingénieur agronome d'Alexis?
L'ingénieur agronome, elle est...
Oui, mais de à la télé, quoi.
À la télé. Alors, l'ingénieur agronome à la télé, il faut savoir qu'il a le souci d'être à la télé, justement, et qu'évidemment, à la télé, il a une chronologie à respecter. C'est-à-dire qu'une vraie ingénieure agronome, elle va travailler sur des projets pendant plusieurs mois. La fiction a tendance à, pour que les enjeux soient forts, à resserrer les chronologies. En général, quand vous voyez des séries, elles se passent pas sur plusieurs années, les films non plus. Vous avez beaucoup de films qui se passent en une nuit, etc. Pourquoi? Parce que plus c'est court, enfin plus les délais sont resserrés et plus on est à perdre haleine.
Oui, on rend plus dense, voilà.
Donc l'ingénieur agronome,
le narratif, quoi.
L'ingénieur agronome, le mien, qui s'appelle Peau de Vache, parce qu'il aide les agriculteurs en n'étant pas gentil avec eux. Il aide les acteurs sur des sujets assez précis avec des temporalités plus courtes. Donc c'est la difficulté, je crois, aussi par rapport à ta première question, c'est que comment représenter ça, cette éternelle question de soit du changement climatique, etc. Il y a des questions de temporalité qui sont très importantes quand en tout cas on s'attaque à la fiction,
oui.
À faire respecter. Au-delà de ça, la question de faire peur ou pas, voilà, enfin la question du didactisme en fait, c'est-à-dire de quand on a ce souhait-là en tant que créateur, quand même de parler de ça, de parler du changement climatique et qu'on veut embarquer les gens avec nous. Moi, le parti pris que j'ai, c'est d'être avec des agriculteurs qui ont des sujets pratiques sur ces questions-là, c'est-à-dire qui sont en prise avec le réchauffement climatique, puisque moi, ma série, elle se passe pendant une sécheresse. Donc, entre guillemets, j'ai le luxe. Des choses pratiques. Je n'ai pas à poser des questions théoriques sur le réchauffement climatique. Les gens sont en prise avec ça directement sur le terrain. Ce qui se passe dans leur ferme, dans leur culture, avec leurs bêtes, est directement lié au réchauffement climatique. Moi, c'est la solution que j'ai choisie pour pas être chiant, entre guillemets, c'est-à-dire pour pas, non, mais pour pas de faire la leçon, pour pas ouvrir un livre.
C'est ce qu'on attend de toi, en tout cas.
C'est pas seulement la question d'être chiant, c'est qu'en plus, on se rend compte que c'est pas très efficace.
Par ailleurs, après, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont...
Quand tu essaies de tout dramatiser, ce qu'on a fait dans le domaine, pas seulement du climat, mais dans beaucoup de...
des vendeurs de peur.
On l'a vraiment, oui, c'est ça. C'est les marchands de peur.
Après, moi, j'ai pas de souci à faire peur, honnêtement. Je pense que la question, elle n'est pas sur faire ou pas faire peur. Je pense que la question, elle est sur être concret. C'est-à-dire, en fait, mettre les personnages dans des problèmes concrets.
Mais...
S'ils sont aux prises, je vous dis une bêtise, mais s'ils sont aux prises avec un déluge après une sécheresse...
Est-ce que c'est assez concret?
C'est très concret.
C'est très concret.
C'est très concret et ça fait peur. Je suis désolé, mais voir un déluge qui embarque les gens, ça fait très peur. Et les gens, bon, c'est un pari que je vous fais, mais j'ai déjà vu moi des.
Ça s'est vu en Allemagne il n'y a pas très longtemps.
Oui, voilà.
Parce que en France, on a eu pas mal d'inondations, mais pas à ce point catastrophique. J'ai plus les dates en tête parce que j'ai un problème avec les dates. Et mais il y a eu des morts emportées par.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si faire peur n'était pas il ne fallait jamais faire peur, les films catastrophes ne marcheraient jamais. Or, il y a des films catastrophes, par exemple, qui marchent. Il y a un film qui s'appelle Twister sur des tornades, qui a marché. Moi, j'ai des souvenirs de films américains, de Jeff Nichols.
Puis s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait jamais pu faire de l'éco-anxiété.
Alors, par ailleurs, après ça, je ne suis pas spécialiste de l'éco-anxiété, mais... Mais en tout cas, voilà, je pense que la question, elle n'est pas sur faire peur, elle est sur mettre des personnages dans des situations concrètes qui disent 100 fois plus qu'un discours théorique. Voilà.
Bah, complètement. Puis pour terminer, avant que je passe la parole, mais c'est vrai que justement le monde agricole a changé, a longtemps été climato-sceptique, et a changé quand ils se sont pris différents aléas en pleine face, notamment l'été catastrophique de 2016, où on a perdu quand même la moitié de la récolte française. Et puis après, il y a eu les sécheresses en 2023, il y a toute une série de... Et puis, au point où, pratiquement, les assurances, mais même si tout le monde n'est pas assuré en agriculture, mais était incapable de faire face. Et c'est là qu'on a vu le monde agricole changer dans son approche de ces questions-là. Mais il n'empêche que tout ne bouge pas comme on voudrait.
Malheureusement, beaucoup de gens deviennent croyants sur leur lit de mort. Donc il faut espérer qu'il y ait d'autres catastrophes.
Exactement.
Moi, je mettrais un petit bémol par rapport à ce sentiment de peur. Je ressens la même pause que vous par rapport à son efficacité. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec la peur parce que c'est hyper important pour des gens qui sont complètement dans le déni de les convaincre que le réchauffement climatique, c'est très, très grave. Mais il faut faire attention à ne pas convaincre tout le monde que c'est tellement grave que ça ne sert à rien de se battre, puisque de toute façon, c'est foutu. Et moi, je trouve que la limite, elle est fine quand on joue vraiment sur les conséquences catastrophiques du changement climatique, avec l'idée de se dire, de toute façon, puisque les limites planétaires ont été franchies, qu'il y a des choses qui reviendront jamais, et qu'il est déjà trop tard, eh ben, ça peut mener à une forme de nihilisme et du coup à de la démobilisation. Alors qu'en réalité, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut provoquer chez les gens. C'est pas juste les terrifier pour les terrifier, c'est qu'ils passent à l'action. Et qu'on convainque nos dirigeants de prendre les décisions politiques qui s'imposent pour enrayer ce destin catastrophique. Et donc, malheureusement, si on terrorise notre électorat ou... nos auditeurs, et que ça les tétanise tellement ils ont peur, et que donc du coup ça les pousse à l'immobilisme et à l'apathie, et que ça les convainc qu'au final, peut-être presque un message presque hédoniste en fait, de dire finalement, puisque le monde court à sa perte et que je n'y peux rien, puisque c'est tellement grave, tellement puissant, tellement au-dessus de moi, tellement hors d'atteinte, que de toute façon à quoi bon me mobiliser, je vais juste kiffer le plus possible avant de mourir, et donc du coup les restrictions, la sobriété, tout ça devient impossible de les en convaincre.
Respecter les limitations de vitesse, etc. Mais Tatiana, tu as peut-être envie de réagir à ce que viennent de nous dire nos invités qui sont participent d'une manière très éloquente.
C'est pour ça que je disais que pour moi, il faut effectivement un récit après avoir fait peur, il faut un récit positif et montrer qu'il y a des solutions, des actions possibles, des voies de s'en sortir et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à petite échelle ou globalement. Et donc, on ne peut pas se passer de ça, de montrer qu'il y a des solutions et un futur positif.
Quoi. Donc, ce n'est pas la biodiversité qui manque de solutions. Est-ce que vous faites visiter vos labos aux artistes ? Alors, les journalistes, on a été invités, on n'a pas toujours tout compris, mais est-ce que ça se multiplie ? Est-ce que les labos sont un peu ouverts au monde de l'art pour justement ensemencer, nourrir de nos imaginaires ?
Oui, il y a beaucoup d'interactions science-art, il y a même beaucoup de financement sur ces aspects-là, et beaucoup d'interactions, que ce soit même de la danse, des pièces de théâtre, des tableaux.
C'est assez nouveau, non ?
Oui, quelques années, quoi, oui.
Alexis.
Oui, si je puis me permettre, parce que c'est la raison pour laquelle je suis là originellement, parce qu'on parle de rapport science-art, moi je suis là pour une association qui s'appelle Nouvelle Séquence, qui a justement pour but... de mettre en lien des scénaristes de tout type, hein, BD, séries, cinéma, avec des gens qui travaillent sur ces sujets-là, donc les sujets du changement climatique, les scientifiques de manière générale. Moi, actuellement, je dirige une room pour cette association qui s'appelle, qui est sur le sujet de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc on essaie de défricher ce sujet-là pour que de futurs scénaristes qui voudraient parler de l'Office français de la biodiversité le fassent avec un peu moins de clichés. On l'a fait avant sur les agriculteurs, on l'a fait sur les scientifiques, de manière générale, puisqu'on s'est aperçu que la fiction française traitait quand même de moins en moins les scientifiques en France, avec de moins en moins d'intérêt.
Alors c'est quoi les clichés ? Dites-moi.
On va faire notre petite pause musicale et tu reprendras dans notre procédure d'atterrissage, tu pourras relancer ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur Allegre FM pour notre dernier cycle dernier épisode du cycle La Voix de la Biodiversité avec Tatiana Giraud, qui va nous présenter peut-être son livre, donc la biodiversité en infographie, l'urgence du vivant, comprendre pour agir. Ah ben voilà, ça répondait à Blanche, qui nous disait comment émerveiller pour agir. Voilà. Donc Tatiana, alors donc ce livre, donc il est déjà en réimpression. Oui. Vous l'aviez tiré à combien ?
6 000.
Ah. Oui, bah, c'est vrai qu'il faut... Non, il mérite encore plus, hein, mais bon, c'est vrai que les tirages de bouquins passés 5 000, c'est déjà des records, mais bravo. Et donc, on le trouve pour le commander maintenant.
Il est réimprimé, là, début mai, donc il sera disponible.
Ça t'a surpris, un tel tirage, parce que, franchement, moi, je ne m'y attendais pas.
J'ai pas vraiment réfléchi en amont ce qu'on attendait, mais bon, l'idée c'était que ça trouve son public quand même, et de présenter des données scientifiques en infographie, donc des données fiables, solides, mais facilement compréhensibles, à la fois sur les constats de qu'est-ce que c'est que la biodiversité, son effondrement, quelles sont les causes.
C'est presque une encyclopédie de la biodiversité. Et alors j'ai vu aussi, alors tu vas pas te faire que des amis, puisque tu parles des OGM, on va dire que c'est une autre branche de la biologie, et là t'en dis pas forcément du bien, et tu nous dis notamment que les NBT, donc ces nouveaux OGM édulcorés, posent autant de problèmes que les autres.
Voilà, l'idée c'est de présenter les constats, les causes, et que logiquement les vraies solutions apparaissent logiquement, et qu'on se rende compte des fausses bonnes idées qui sont généralement mises en avant, comme planter des arbres pour compenser, les biocarburants, les technologies d'extraction du carbone, ou les OGM typiquement.
En tout cas, j'ai recommandé à ma fille pour son prochain exposé au lycée. Il y a franchement matière à traiter les sujets. Puis bon, c'est vrai que c'est le fait que ce soit en dessin, en infographie, c'est très efficace. Ça.
Et donc surtout les bonnes solutions à la fin, ça
voilà, voilà.
Quoi faire et comment
et
faire.
Et les fausses bonnes idées, c'est bien aussi.
Alors, donc Blanche, alors peux-tu nous donner tous les détails sur ta BD, puis la prochaine aussi, j'imagine,
parce que... Eh bien alors, la dernière en date est sortie vendredi,
ah.
Vraiment, elle est toute neuve, elle a 5 jours. C'est La Cité des Dames, c'est ma fantaisie féministe écolo, donc ça va être une saga en 6 tomes. Donc la prochaine BD, ce sera la même histoire, mais juste la suite.
D'accord. Et donc on est au premier exemple, au premier épisode. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est le premier tome. Et en vrai, ça met vachement en pratique tout ce dont on a discuté pendant l'émission. L'idée de passer par un support ludique, des paysans, narratif, pour parler de trucs
très politiques. Tu reviendras nous expliquer tout ça.
Avec grand plaisir.
Alexis, on te laisse pratiquement les secondes de la fin.
Je vais faire vite. Mon actualité, c'est que je suis ici pour vous parler d'une association qui s'appelle Nouvelle Séquence, qui est une association de scénaristes qui essaie de défricher certains sujets liés au réchauffement climatique, enfin au changement climatique.
Et vous êtes nombreux ?
Alors on est nombreux, c'est ça le pire. On a travaillé auparavant sur le sujet de l'agriculture pour essayer de déconstruire certains clichés et que d'autres scénaristes s'emparent de ce sujet-là avec un peu plus de finesse. Et moi là je suis en charge d'une nouvelle room, comme je disais tout à l'heure, sur l'Office français de la biodiversité. Je vous engage toutes et tous à aller voir sur internet ces boîtes à outils, même si vous êtes apprenti scénariste, ça vous permet
d'embrasser
ces sujets-là rapidement.
Eh bien on remercie la technique et puis on vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.